papa, moi, quand je serai grand, je veux fabriquer des trains qui iront jusque sur la Lune.
Tu vois, il n'y a pas que moi qui suis passionnée par les trains.
Oui, ça lui passera.
Tous les enfants aiment les trains. Même toi, tu jouais au petit train ?
Je m'en souviens pas.
Et qui volait toujours la casquette et le sifflet de papa ?
Oui, peut-être, mais j'ai grandi maintenant.
Tu te souviens de ce que nous disait papa ? Il rêvait de travailler dans les trains depuis tout petit. Dès qu'il a pu, il a passé le concours d'entrée au centre d'apprentissage et il a jamais regretté.
C'est vrai qu'il nous parlait souvent de son apprentissage. Son plaisir quand il a pu s'approcher d'une locomotive pour la première fois.
Et tu te souviens de ses pièces d'apprenti ?
Ah ça oui, les morceaux de ferraille qui traînaient sur la cheminée et que papa montrait à tous mes amis dès qu'ils entraient dans la maison.
Il était fier de sa carrière. Lui, le fils d'immigré qui a gravi toutes les marches. Formateur dans la grande maison, comme il disait.
J'aimais bien quand il nous parlait de ses années dans les ateliers. Ces années de...
D'arpète. Il a travaillé dur pour y arriver. Et tu te souviens de l'affiche dans le salon ?
Jeunes gens, un beau métier vous appelle. Faites votre apprentissage à la SNCF.
Et son cahier d'apprenti avec les exercices, les modèles et surtout les morales sur chaque page.
Être dégourdi ne veut pas dire être impoli.
Tu n'aimes pas les coups ? Tes instruments de précision non plus.
Le travail n'exclut pas la joie, mais la joie n'entraîne pas obligatoirement le désordre.
Ah oui, et mon préféré, n'emprunte pas d'outils à ton voisin, surtout sans son consentement.
Et moi c'était pas de marcher aux puces sur ton établi.
Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. Dans cet épisode, on vous parle des apprentis du rail. Apprentis, du verbe apprendre et du latin apprehendivus. Depuis que l'homme peuple la terre, il transmet de génération en génération ses savoirs. Des savoirs pour survivre et se développer. En fait, l'apprentissage est né avec l'homme. Les premières traces de ce mot, apprentes, remontent à 1175, et il désigne celui qui apprend un métier manuel. Le mot apprentissage, lui, apparaît un siècle plus tard, en 1268, dans le livre des métiers du prévôt de Paris, Étienne Boileau. Dans cet épisode, j'ai eu envie de vous parler de l'apprentissage, car il est lié à l'histoire du rail en France.
Nous sommes les apprentis, joyeux garçons, sportifs et sans soucis.
Alors, j'étais dans un petit centre, Chartres. Il y avait 4 places de 10 par an à peu près. Et on était 60 au concours d'entrée.
Dans chaque branche, après, moi j'ai fait 2 ans d'ajustage. Et après, j'ai fait 1 an moteur.
Puis le chef, c'est un chef. Il commande, il a dit des conneries, mais bon, faut faire quand même, on verra bien après.
Pendant la guerre, là, il me semble que c'est 12 heures qu'on faisait par jour.
Oui, j'ai fait une 4e année, comme j'étais le premier souvent, j'ai fait une 4e année spéciale, surtout sur les locomotives.
Avec 5 chemises comme ça, on m'a fabriqué 2 jottes bleues.
Bon, ils nous ont inculqué le métier, mais également la droiture, le respect des horaires, etc.
Ah, on faisait aussi, oui, il y avait un peu de gymnastique. Moi, j'étais pas tellement chaud pour faire de la gymnastique avant.
On était heureux, quoi. Mais tout se passait bien.
Les voix que vous venez d'entendre, ce sont celles de Marcel, Pierre, André, Georges, Francis, d'anciens apprentis de la SNCF. Ils ont raconté, en 2012-2013, leur quotidien d'apprenti au micro de Rail et Histoire. Ils nous ont décrit leurs travaux, l'ambiance au sein des centres d'apprentissage, ces années de formation qui ont précédé l'exercice de leur métier.
Il y avait des cours de français et mathématiques. Il y avait des cours de dessin industriel, des cours de technologie générale. Il y avait du chant.
Les sources manquent, mais il est presque certain que dès l'apparition du chemin de fer en France, l'apprentissage et le compagnonnage y ont été associés. On en trouve des traces dès 1848, dans un document sur les effectifs des ateliers de La Chapelle, à Paris. Sur 1292 employés, on comptait 64 apprentis. Autre trace, en 1893, sur le réseau Orléans, on trouve une revendication syndicale. Les apprentis dans les ateliers seront payés à raison de 2 francs par jour minimum. En sachant qu'à l'époque, le kilo de viande de bœuf coûte 1,50 francs, le kilo de pain 38 centimes et celui de pommes de terre 40 centimes, c'est pas cher payé. Ces très bas salaires mènent à des luttes. Par exemple, à Bordeaux, aux ateliers du Midi, les syndicats font publier une lettre dans la tribune de la Voie ferrée. Ils revendiquent une rémunération de 2 francs minimum. À l'époque, les apprentis touchent entre 50 centimes et 1 franc 25. L'histoire de l'apprentissage dans les chemins de fer est très liée au syndicalisme des cheminots. Je vous en parlerai un peu plus tard. Mais d'abord, intéressons-nous de plus près aux apprentis. Pour cet épisode, j'ai voulu discuter avec une personne qui a longtemps fréquenté les centres de formation. J'ai rencontré Pascal Piau, un agent SNCF retraité et qui a été formateur à l'école de formation SES pour services électriques de signalisation.
Braille Histoire qui vient pour l'enregistrement. C'est du bouquin que je t'ai demandé.
Il m'a emmené dans les ateliers de Chambly-Moulin-Neuf et m'a raconté comment on devient apprenti à la SNCF.
Chez moi quand même, mais bon, je préfère. Vous travaillez plus ici ou pas ici?
Je suis en retraite. Trop vieux. Voilà. J'ai travaillé ici, en tant que formateur. Alors, en origine géographique, ils viennent de toute la France. Sur entrée, ils ont postulé à la SNCF comme agent de signalisation au niveau de l'embauche. Et tout le recrutement se fait sur un seul centre de formation à Paris, où ils passent des tests de vue, de santé, de capacité et quelques tests électriques. Parce que l'électricité étant la base du métier d'agent de signalisation, il faut qu'ils aient une bonne base. Une base parce que nous, derrière, nous continuons à les former sur des particularités qui seront en correspondance avec le métier de la signalisation ferroviaire. Donc, ils viennent de toute la France. Les origines sociales sont diverses et variées, comme dit la formule. On a principalement donc des jeunes qui ont eu qui n'étaient pas forcément excellents à l'école, mais qui ont des capacités à se débrouiller en électricité. Il faut surtout qu'ils aient un bon sens. Socialement, on a eu beaucoup de recrutements en fonction des lieux d'embauche en région parisienne, puisque la région parisienne est à elle seule presque 50% d'embauche d'apprentis ou d'alternants.
L'apprentissage a pris différentes formes au cours des années. En 1900, pas de temps mort. 10 heures par jour d'algèbre, de chimie, de dessin, de géométrie, de français et bien d'autres matières. 30 ans plus tard, dans les centres du PO, les apprentis ont des journées de 8 heures qui commencent à 7h30 et se terminent à 17h. 6 jours par semaine, dont 35 heures d'atelier. Le 1er janvier 1938, en application du décret-loi de 1937, les 5 grandes compagnies ferroviaires du pays sont fusionnées, afin de donner naissance officiellement à la Société nationale des chemins de fer français, la SNCF. Là, l'apprentissage s'uniformise. Pascal Piau.
Alors, historiquement, il y a eu plusieurs types d'apprentis. Le premier apprentissage qui a eu lieu de 1939 à 1980-88 était des formations en école stricte. Les élèves étaient recrutés à la sortie de la troisième pour un CAP. Ils faisaient un an de mécanique générale et 2 ans de spécialisation sur la signalisation ferroviaire. Ils sortaient avec un CAP, monteur en signalisation, et ils arrivaient directement sur le terrain, c'est-à-dire dans des parcours d'entretien, où on entretient les passages à niveau, les signaux, les circuits de voie, tout ce qui garantit la sécurité pour éviter qu'un train rattrape un autre, qu'un train rentre trop vite dans une gare, la vitesse, les indications de feu. Ensuite, à partir de 80, dans les années 80, des gens comme moi ont intégré la SNCF avec un niveau bac F3 électrotechnique. Et nous avons suivi dans ces mêmes écoles une formation d'alternance entre le terrain et les écoles. Et on devait boucler notre formation sur le terrain. Cette formation durait 2 ans et ensuite nous étions, entre parenthèses, lâchés sur le terrain.
Avec la nationalisation, une nouvelle méthode de travail est mise en place, la méthode dite Carrard. Elle prescrit notamment aux apprentis de changer régulièrement d'exercice pour éviter la fatigue, de n'apprendre qu'une chose et un geste nouveau à la fois, d'enseigner plutôt que de corriger, et l'activité physique devient une pratique obligatoire.
Il y avait du sport, en bas de l'athlétisme. Alors à cette occasion, j'ai été en 1942 champion de France de saut en longueur, cadet à Amiens, 6 m89.
Pour autant, dans les centres d'apprentissage règne une discipline de fer. Pascal Piau se souvient.
Effectivement, des années 60 jusqu'aux années 80, les apprentis, mes collègues, donc, quand ils revenaient sur le terrain, nous racontaient que dans ces centres de formation, la discipline était tellement stricte que quand ils partaient pour le service militaire, ça leur... ils avaient l'impression d'être presque en vacances. La discipline était le maître mot dans ces centres de formation. Les élèves ne rentraient pas... Si les résultats étaient mauvais le vendredi, le samedi, dimanche, ils y restaient pour un perfectionnement. C'était de l'internat strict, un petit peu comme dans certaines écoles haut de gamme, ou en tout cas très difficiles. J'allais dire les jésuites un peu. Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Vous voyez, c'est des choses bien, bien précises. Pense à ta sécurité et tu déclineras ta sécurité à celle des autres. C'est des maîtres mots que l'on retrouve encore dans certaines affiches dans nos valeurs de signalisation ferroviaire.
Petit aparté, il faut préciser que lorsque nous parlons d'apprentis ici, nous parlons majoritairement de jeunes hommes. Il a fallu attendre les années 80 pour que les filles puissent entrer en apprentissage à la SNCF. Et même à partir de là, elles sont très peu nombreuses par classe. Je vous le disais, l'histoire de l'apprentissage dans les chemins de fer est marquée par les mouvements de lutte sociale. Qui se souvient des grandes grèves de 1920, également appelées grève des lavabos ? Peu de gens. Et pourtant, elles sont à l'origine de la création d'un statut pour les cheminots. Une vraie avancée sociale. Les apprentis aussi se mobilisent pendant ces événements et ils subiront les mêmes conséquences que les cheminots. Par exemple, 141 apprentis seront révoqués du PO. Après ce mouvement, les compagnies veulent réformer l'apprentissage. Elles limitent les enseignements théoriques au profit de la pratique. Et surtout, elles regroupent les apprentis dans des ateliers pour éviter qu'ils ne prennent le mauvais exemple des autres ouvriers. Pour être clair, qu'ils deviennent rouges. Pascal Piau me raconte comment ces liens entre le syndicalisme et l'apprentissage ont évolué à son époque.
Déjà, vous aviez des jeunes de 17 ans, 4 et 3, 7, 17, 18 ans, quand ils arrivaient dans un parcours avant les années 81. L'arrivée de Mitterrand a changé beaucoup de choses parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de syndicalisme. Même certains parcours où la première chose quand vous arriviez, c'était de vous faire signer un engagement à la CGT. Ça, c'est vrai jusqu'aux années 81. L'arrivée de François Mitterrand et de la gauche socialiste a changé beaucoup de choses puisque la lutte était moins marquée. Quand en 81, nous avons eu la chance, c'est voir l'arrivée de la cinquième semaine de congés payés sans lutte. À la SNCF, on était habitué de lutter pour obtenir toujours. Et là, Mitterrand est élu. Il donne la cinquième semaine de congés payés et les 39 heures. Alors qu'on faisait 45 heures. Ce qui fait que la notion de lutte a été beaucoup moins marquée. Et une génération est partie en retraite. La génération qui avait fait 68 est partie en retraite. Où eux, là, nous avions affaire à des agents très, très, très marqués politiquement et syndicalement. Mais c'est vrai que les apprentis, quand ils arrivaient, devaient suivre la voie principalement de la CGT. Je ne le dis pas contre la CGT, c'est un état de fait.
Apprenti, en baisse, amis, chantons au cœur notre jeunesse pleine d'ardeur. Vous voyez, c'était des chansons d'arpètes, hein. L'arc et la flèche gravés sur l'insigne qu'avec orgueil nous chantons sur le cœur. Voilà, c'était, on chantait des chansons à la gloire des cheminots.
J'ai eu envie de terminer cet épisode en écoutant Pascal Piau nous parler des valeurs transmises par l'apprentissage.
D'abord, la première valeur quand les gens intègrent cette école ou cette formation, c'est la sécurité, sa propre sécurité. Parce que pour aller dépanner, il faut déjà éviter de se faire écraser par un train. Ça, c'est primordial. La deuxième, c'est la sécurité des circulations. Ne pas oublier que dans un train, il y a 2 ou 3 000 personnes et qu'à chaque intervention, il est facile de faire un drame. Ensuite, c'est d'avoir un esprit d'équipe qui fasse corps. Un petit peu comme, je ne vais pas dire les pompiers ou l'armée, mais en tout cas, quand vous avez un collègue qui a un problème, il faut être capable d'aller lui donner un coup de main. Nous sommes d'astreinte, mais je n'ai jamais, jamais refusé qu'un collègue m'appelle pour aller venir lui donner un coup de main lors d'un dépannage un peu compliqué. Même avant de partir en retraite, le 24 décembre, au soir, je suis intervenu pour aider un agent en dépannage. Et ça, jusqu'au dernier jour de mon travail, je m'étais fait un honneur à toujours intervenir. Aussi bien quand j'étais agent, pour aider un de mes collègues agents, quand j'étais maîtrise, pour aider, pour cadre, ce qui est le minimum d'un cadre, c'est d'aider quand les gens appellent au secours. Sans juger. Aider sans juger. Voilà les valeurs.
Tout à l'heure, je vous ai parlé de la grève des lavabos. Mais que s'est-il passé au juste ? Tout commence le 2 février 1920 dans les ateliers de construction ferroviaire de Périgueux. Ce jour-là, les ouvriers quittent leur poste avec 5 minutes d'avance. Ils protestent contre le manque de lavabos, qui conduit à une longue attente pour se laver les mains en fin de journée. En quelques jours, le mouvement de protestation s'étend à tout le réseau Paris-Orléans, puis aux autres compagnies ferroviaires. Et le 1er mai 1920, la Fédération nationale des travailleurs du chemin de fer appelle à la grève générale. Le mouvement est durement réprimé, mais les travailleurs du rail obtiennent la création d'un statut du personnel commun à toutes les compagnies. Ils consolident les acquis des décennies précédentes. Caisse de secours et de prévoyance, caisse de retraite, facilité de circulation pour les cheminots et leurs familles. Ils offrent de nouvelles garanties en termes de recrutement, de notation, d'avancement et de représentation du personnel. Ces droits sont accordés en compensation d'un travail pénible. Le statut de 1920 connaît par la suite une histoire heurtée. Il est remplacé par une convention collective en 1938, rétabli en 1950, plusieurs fois amendé dans la seconde moitié du XXe siècle et finalement abandonné pour les nouveaux recrutements à partir du 1er janvier 2020. Merci d'avoir écouté cet épisode de Il était une voix, un podcast de Rail et Histoire. Vous trouverez en description les sources utilisées dans cet épisode. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, et à bientôt !